La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Roland Barthes n'a jamais craint de faire entrer les sentiments et des éclats de biographie dans ses textes théoriques. Sa vie anti-spectaculaire, pas très romanesque, constitue pourtant le point de départ de beaucoup de ses réflexions, lui qui était un observateur très fin des choses les plus délicates. De cette vie, de la peur d'être blessé, la gentillesse, la nostalgie et la mélancolie ont coloré la succession des jours. Nous l'avons vu lundi, c'était avec sa biographie. Tiphaine Samoyau dans une émission à retrouver en podcast. Et puis mardi, nous avons cherché à reprendre la chronologie des grandes œuvres de Barthes, depuis le degré zéro de l'écriture jusqu'au fragment d'un discours amoureux, pour en extraire à chaque fois la spécificité du projet. Éric Marty était notre guide tout au long de ce parcours. Enfin, hier, avec Carlo Ossola, professeur au Collège de France, puis avec Mathieu Messager de l'Université de Nantes, nous nous sommes arrêtés sur quelques concepts d'analyse littéraire de Barthes, et en particulier sur l'idée de plaisir et de jouissance que le lecteur retire à la lecture d'un texte. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du rapport de Barthes avec cet art qu'il affectionnait par-dessus tout, la musique, nous sommes en compagnie de Claude Coste, professeur de littérature française à l'université de Cergy-Pontoise, auteur notamment de Bêtises de Barthes aux éditions Klinksic en 2011, car Barthes était fasciné par la bêtise, un peu comme Flaubert. Et puis, on lui doit plus récemment, en 2016, l'essai Roland Barthes ou l'art du détour aux éditions Hermann. Et enfin, il a édité avec Sylvie Douche le volume du colloque Barthes et la musique aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2018, les actes d'un colloque qui s'était donc tenu en juin 2015 à la Fondation Singer-Polignac à Paris. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je ne sais absolument rien par cœur, il faut que je lise, sinon je ne peux pas jouer. Ça tient au fait que j'ai évidemment très vite déchiffré, enfin dans la mesure de mes doigts, et c'est une mesure faible, mais j'ai très vite déchiffré, abattu comme ça, beaucoup de cahiers, enfin, jouant tout ce qui me passait comme ça sous les yeux. Et puis en réalité, j'ai jamais pris vraiment de leçons. J'ai pris des leçons quand j'étais gosse, parce que j'avais une tante, la sœur de mon père, qui était professeure de piano à Bayonne. Alors, elle m'a initié au solfège, première leçon, mais après, nous sommes venus à Paris avec ma mère, et à ce moment-là, je n'ai plus pris de leçon. Mais en fait, déjà, j'aimais assez cela, n'est-ce pas, pour qu'on loue dans des conditions difficiles, car nous étions très pauvres, pour qu'on loue un piano, toujours. J'ai toujours eu un piano.
Bonjour Claude Coste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Finalement, à écouter cet extrait d'entretien avec Claude Maupomé, on pourrait se dire que Barthes aimait beaucoup lire et déchiffrer les signes, que ce soit les signes d'un texte littéraire comme les signes qui sont sur une partition.
Tout à fait. Et ça définit bien, à mon sens, ce beau passage que vous avez passé, cette figure de l'amateur, hein, que Barthes aimait par-dessus tout. Hein. L'amateur, c'est celui qui aime. Et Dieu sait si Barthes aimait la musique. Et l'amateur, c'est aussi celui qui n'est pas un virtuose. Hein. Donc Barthes développait une pratique privée, personnelle de la musique, et il regrettait beaucoup que le disque en particulier ait tué la pratique musicale. Même médiocre, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de jouer. Et puis l'amateur, c'est aussi celui qui ne se montre pas, qui joue pour lui. Hein, comment dire, différemment du virtuose de concert, qui lui est dans une grande salle, des Champs-Élysées par exemple. Donc c'est ça pour lui qui est très important, l'amateur. C'est pas un éloge de l'amateurisme, c'est un éloge d'une certaine manière de se comporter face à l'art et à la musique.
Alors, puisque vous parlez dès maintenant de cette relation entre l'amateur et le professionnel de musique tel que vu par Barthes, je vous propose, sans plus attendre, d'écouter ce qu'il disait à ce sujet.
Il est certain qu'autrefois, la musique que nous appelons maintenant classique était certes réservée aux classes supérieures, aux classes oisives, disons, sous forme souvent de mécénat, dont nos grands musiciens occidentaux ont profité, n'est-ce pas beaucoup. Mais il faut dire que dans cette classe oisive, la plupart de ceux qui écoutaient de la musique en jouaient eux-mêmes, en tant qu'amateurs. C'est-à-dire qu'il y avait un statut de l'amateur qui, évidemment, me semble-t-il, est en train de disparaître actuellement au profit, bien sûr, de la musique écoutée, de la musique de disque, de la musique qui passe à la radio. Ceci étant dit, essentiellement pour la musique dite classique, car il est bien évident que pour la musique plus populaire, il y a des formes d'amateurisme qui sont encore très vivaces, des garçons qui jouent de la guitare ou qui essayent de chanter, etc.
Entretien avec Jean-Louis Cavalier qui date de 1976. Alors ça voulait dire quoi précisément être un amateur pour Barthes, parce que il était amateur en musique, mais aussi en peinture, mais aussi en théâtre, puisque il a joué dans des pièces de théâtre, notamment dans sa jeunesse. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui?
D'abord, prenons le mot amateur dans son étymologie, c'est celui qui aime, hein, et qui se définit, vous en parliez, par le plaisir que l'on a, et non la fonction, coïncide, enfin plutôt le plaisir déborde la fonction, je crois que c'est d'abord ça, hein, c'est qu'il y a toujours un plaisir qui déborde la fonction, ce qui ne veut pas dire que jouer de la musique ou faire de la peinture n'est pas une fonction sociale, bien évidemment. Donc l'amateur, c'est celui qui aime et qui met le plaisir au centre même de ses activités.
C'est-à-dire que le plaisir, c'est la ligne directrice de la vie de Roland Barthes ?
Voilà. Mais un plaisir qui n'exclut pas les autres. D'abord parce que les autres peuvent être une source de plaisir aussi, puis aussi parce que mon plaisir peut gêner les autres. Donc il n'y a pas du tout d'individualisme forcené dans ce goût du plaisir. Hein. L'hédonisme est aussi une manière de penser la sociabilité, puisqu'on n'est pas tout seul à être un être de plaisir.
Donc plaisir... ce terme d'hédonisme, vous l'appliqueriez à Roland Barthes?
Oui, oui. Un hédonisme peut-être qui n'est pas sans mélancolie, qui peut être inquiet, mais... qui fait du plaisir un des buts de l'existence. Il n'y a pas de transcendance chez lui. Hein. Donc nous avons un temps imparti, ça s'appelle la vie, et cette vie doit être autant que possible source de plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir égoïste, je me répète. Hein. Mm-hmm. C'est, nous ne sommes pas là pour souffrir, me semble-t-il, hein, même si la vie nous offre ses épreuves. Hein. Et donc cette philosophie du plaisir n'est pas une philosophie égoïste ou purement superficielle, ça n'a rien à voir, bien évidemment. Hein.
Et donc sur cette idée de l'amateur un petit peu dans tous les domaines, c'est un amateurisme tout de même qui est proche du professionnalisme. Peut-être pas pour la peinture, on en parlera sans doute à la fin de cette émission, mais en tout cas pour ce qui concerne la musique, il y a eu chez Barthes une pratique quotidienne du piano.
Oui, alors qui n'irait pas jusqu'au professionnalisme. Si on devait parler de professionnalisme chez Barthes, ce serait dans son activité de professeur, de sémiologue. Il a joué parfois une sorte de légèreté apparente. En fait, il était un grand lecteur, il avait des connaissances réelles. Dans le domaine de la musique, Barthes a essayé de se frotter à toutes les pratiques possibles. Vous savez qu'il a été aussi compositeur. On en parlera, bien sûr. Bon, là, on sent les limites de sa formation. Hein. Donc, pour la musique, c'était un praticien. Et pour lui, c'était ça l'essentiel. Hein. Au fond, au-delà de l'amateur et du professionnel, c'est le praticien qui compte.
Alors, la pratique de la musique chez Barthes, c'est une pratique qui remonte à l'enfance. Oui. Comment entre-t-il dans la musique jouée au sein de la famille, parce que c'est quand même vraiment par cela qu'il entre dans la pratique de la musique. Comment ça se passe?
Alors, il l'expliquait dans le passage que vous avez diffusé. C'est une pratique du piano et c'est une pratique familiale. Sa tante Alice, hein, étant professeur de piano à Bayonne.
C'est une tradition quand même.
Alors, c'est une tradition familiale et c'est aussi une tradition sociale. Barthes, par la musique, c'est peut-être par cet art-là qu'il se définit le plus comme appartenant à la bourgeoisie française. Hein. Mmh. Barthes parlait de l'amateurisme, de la pratique instrumentale. En France, la musique ne fait pas partie de la culture générale. Hein. On peut être cultivé, mais c'est un supplément. La France, les Français cultivés le sont dans le domaine de la littérature, de la peinture, et la musique est un supplément. Or, socialement, la musique vous, comment dire, vous signale vraiment comme appartenant à une classe. Et c'est en ce sens-là que Barthes est le plus bourgeois, peut-être, hein. Il a toujours réclamé un rapport compliqué à la bourgeoisie. Mais pour ce qui est de la culture et des mœurs, il n'a jamais caché son appartenance bourgeoise. Et la musique en est un des, comment dire, une des manifestations. Donc, c'est un signe sur l'apprentissage de la musique familiale et aussi sociale. Et ses goûts musicaux sont les goûts, finalement, d'un jeune homme de la bourgeoisie de province qui est formé dans les années 30.
Donc il n'y a pas de contradiction chez lui dans ce rapport à la bourgeoisie par rapport à ce qu'il écrit par ailleurs dans les mythologies, où il dénonce quand même plutôt la mythologie qui est fabriquée par la bourgeoisie.
Alors dans un beau texte de Barthes intitulé L'image, il dit au fond la bourgeoisie, c'est, il y a plusieurs couches, comme des couches de terrain. Alors, il y en a de bonnes et il y en a de moins bonnes. Et autant Barthes peut avoir une critique politique de la bourgeoisie, une critique parfois flaubertienne de ce qu'on pourrait appeler la bêtise bourgeoise. Hein,
par exemple, vous avez un exemple de ça?
Dans son séminaire sur Bouvard et Pécuchet, par exemple, hein, qui a été publié dans Album hein, par Éric Marty en 2015, et qui est un magnifique exemple de l'analyse de Bouvard et Pécuchet, les parangons de la bêtise, et avec beaucoup de tendresse aussi de la part de Barthes pour cette bêtise hein, de Bouvard et Pécuchet. Donc la bourgeoisie s'est fait de plein de couches, et il y a aussi un art de vivre bourgeois auquel Barthes se réfère et dans lequel il se sent bien aussi, hein, et en particulier par la musique.
Donc la tendresse, c'est aussi une des caractéristiques de la vision que Roland Barthes a du monde, de son rapport au monde, et c'est une des caractéristiques de son rapport à la musique. Parce que la tendresse renvoie peut-être chez lui justement cet univers d'enfance où il entendait dans sa famille des gammes, par exemple, et des gens jouer au piano.
Et vous faites allusion à un beau texte de 1980, je crois, qui s'intitule « Au piano », et dans lequel Barthes dit qu'il a plaisir précisément à entendre ces gammes de piano, qui pourraient être la chose la plus ingrate, vous savez, hein, pour celui qui les exécute et pour celui qui les entend. Mais d'une certaine manière, ces gammes de piano sont la quintessence de la musique. Une musique tonale, d'abord, hein, puisque les gammes sont forcément tonales, et une musique donc qui installe le code. Et tout le travail de Barthes, c'est non pas de refuser le code, parce que sinon on est illisible, on est incompréhensible, c'est d'accepter le code et de jouer avec lui, de le ruser ou de le transgresser. Mais si on veut ruser, si on veut transgresser, si on veut jouer, il faut d'abord qu'il y ait une règle avec laquelle on fait quelque chose. Et la musique tonale, pour Barthes, me semble-t-il, c'est la quintessence même de ce langage commun avec lequel on va jouer.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de proustien dans son rapport à la musique?
Oui, vous avez raison. Hein. Puis Proust est tellement présent dans Barthes qu'on pourrait le retrouver dans tous les arts. Mais le rapport de Proust et Barthes à la musique est un peu différent, en ce sens que Proust reste quand même très idéaliste, très platonicien, si vous voulez. Hein. La musique renvoie au ciel des idées, elle renvoie à un absolu. Il y a un matérialisme très très fort chez Barthes, hein, et qui fait que si la musique est un idéal chez lui, c'est au sens non pas du mot idée, mais au sens d'idéal, au sens où c'est quelque chose vers lequel on tend, que l'on aime. Mais enfin, chez lui, il le dit bien. Enfin, c'est le corps qui est présent. Bon, chez Proust aussi, bien sûr, ô combien. Mais un corps qui ouvre sur quelque chose d'un au-delà, quoi.
Mais hein. Dans la nostalgie aussi, alors, que représente la musique pour lui.
Alors, dans le texte au piano, c'est très étrange. Barthes dit « Ces gammes sont destinées à devenir souvenirs ». Si vous voulez, c'est pas un souvenir que l'on retrouve, c'est presque un souvenir qui est programmé. Enfin, le texte est très étonnant. « J'entends ces gammes », dit-il, hein, je le fais parler. « J'entends ces gammes et ces gammes sont destinées à être mémorisées, en quelque sorte. Hein. » Alors, on a quelque chose de très proustien, mais en prenant les choses dans l'autre sens, en quelque sorte.
Il faut donc redire un petit peu qu'il savait jouer du piano, on l'a dit, mais aussi chanter avec Charles Panzera, qui lui a appris le piano dans les années 30. On reviendra sur la voix de Panzera, qui est très importante pour Barthes. Il y a aussi cette phrase conclusive du dernier cours de Barthes au Collège de France, la préparation du roman, hein, qui date de 1980, où il dit « Il est encore possible d'écrire de la musique en ut majeur. C'est là pour finir l'objet de mon désir, écrire une œuvre en ut majeur. » Qu'est-ce que ça veut dire ça, Claude Coste?
Alors, c'est une petite provocation finale, hein, à la fin de son cours, surtout dans un monde, en 80, le sérialisme était un peu moins à la mode, mais enfin, où écrire en ut majeur, c'est l'apanage de la musique populaire ou la musique de masse. Ce n'est pas l'apanage de la musique savante. Hein. Bon, et c'est une phrase de Schoenberg hein, que cite Barthes. Alors qu'est-ce que ça signifie écrire en dute majeure? Ben, ça signifie écrire au sein de la tonalité. Hein. Et vous savez que chez les musiciens, le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait de la tonalité au XXe siècle. Hein. On l'a fait sauter, on l'a fait exploser. C'est l'école de Vienne. Ou alors on la maintient. Hein. C'est la voix de Stravinsky, du groupe des Six, hein, du Tilleux, enfin, etc. Et on joue avec elle. Et Barthes se situe dans la seconde progression. On garde la tonalité et on joue avec elle. Et on fait du Schumann. C'est ce que fait Schumann. Hein. Même en plein XIXe siècle, Schumann écrit tonal, mais cette tonalité est porteuse du langage du corps et d'autres choses. Au XXe siècle, c'est un peu la même chose avec d'autres types de langage.
La compagnie des auteurs sur France Culture. On va revenir avec vous, Claude Coste, évidemment, sur cette notion musique tonale, musique atonale, et la manière dont Barthes a pu aimer ou pas la musique atonale, et ce qu'il en pensait, et comment il pouvait éventuellement aussi le théoriser. Mais d'abord, il faut dire un petit peu quels sont ses goûts musicaux, dire que c'est donc un classique, mais ça n'empêche pas un certain goût quand même pour la modernité. Est-ce que vous pouvez essayer de débrouiller un petit peu pour nous tout cela ?
Oui. Alors, je vous le disais, Barthes a les goûts d'un jeune homme de sa classe et de son époque. C'est-à-dire qu'il aime les romantiques allemands. C'est essentiellement Schumann et Schubert, hein, un peu Beethoven, mais surtout Schumann et Schubert. Vous avez passé un passage de Schumann, hein, je crois. Et puis, il aime bien la musique française de l'entre-deux-guerres, Debussy, Ravel, et un peu Poulenc, hein, qui revient parfois dans son fichier qui n'est pas encore publié.
Mais pas tout Ravel, par exemple.
Non. Et c'est toujours très sélectif. Hein. Il aime Pélléas et Mélisande à la folie, mais il n'aime pas tellement l'œuvre pour piano de Debussy, par exemple. Hein. C'est peut-être aussi parce que c'est très difficile à jouer. Hein. C'est peut-être pour cela. Enfin, j'en sais rien. Pour Ravel, il n'aimait pas du tout les pièces humoristiques, par exemple. Hein. Il détestait les histoires naturelles qu'il trouvait. Il n'aimait pas du tout. Je ne sais pas si Barthes avait beaucoup d'humour, en tous les cas, il n'y avait pas d'humour en musique, si vous voulez. Donc, ses goûts, c'est le romantisme allemand, le Lied allemand en particulier, et la musique française de l'entre-deux-guerres.
Donc, des sentiments, de la musique sentimentale, entre guillemets.
Et de la musique qu'il qualifie de romantique, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors, pour Schumann et Schubert, bon, on dira que ce sont des romantiques, mais Debussy et Ravel, des romantiques, c'est curieux. En fait, il le définit très clairement dans une fiche, et romantique, toute musique qui renvoie à une individualité créatrice. Quand vous écoutez du Ravel, on sait tout de suite ce que c'est du Ravel. Quand vous écoutez du Debussy, même chose. Et Barthes, un peu méchamment, dit que quand on écoute de la musique baroque, on ne sait pas de qui c'est. Et quand on écoute de la musique contemporaine, c'est un langage, c'est pas un auteur. Ce qui est très contestable. Mais vous voyez la définition qu'il donne du romantisme. Mm-hmm. Hein. Le romantisme, c'est l'exaltation de l'individu. L'individu créateur.
Enfin, quand on écoute du Brahms, on entend Brahms.
On entend Brahms.
Et pourtant, il n'aimait pas Brahms.
Alors, il n'aimait pas Brahms parce qu'il devait le trouver un peu épais, au sens un peu lourd. Si vous voulez, il n'aimait pas ce qu'il appelle, à propos de Mahler et de Bruckner, ce qui est un peu méchant, le romantisme lourd, si vous voulez, hein, qui était si à la mode dans les années 70 en France. Hein. Alors Brahms serait peut-être trop académique et trop allemand, vous savez, au mauvais sens du terme, pour que Barthes l'aime jusqu'au bout.
Alors ce qui est tout de même très étonnant, quand on sait à quel point Barthes aimait la modernité en littérature, n'aimait pas justement cette espèce de classicisme 19e, pourquoi finalement se retrouve-t-il en musique avec des goûts, vous l'avez dit, hein, extrêmement bourgeois, Schumann, et refuse la tonalité qui constitue vraiment ce qui se rapproche le plus finalement des textes qu'il préfère. Solers serait quand même davantage, ou Robe grillée, du côté de la tonalité plutôt que d'un grand classicisme en musique, si on devait faire des rapprochements comme ça.
Tout à fait. Et en fait, Barthes s'est intéressé à cette modernité musicale. Il s'y est intéressé, il a fait l'effort intellectuel. Vous savez, il y a chez nous l'effort intellectuel qui fait qu'on peut s'intéresser à beaucoup de sujets, parce que c'est à la mode ou parce que c'est vraiment d'actualité au sens le plus fort du terme. Et puis, il y a nos goûts et notre plaisir qui, parfois, n'a pas... notre cœur n'a pas forcément le même goût que notre tête, si vous voulez. Alors, Barthes s'est intéressé à la musique contemporaine. D'abord, il a pris des leçons de piano, indépendamment de la Tantalis, avec André Boukourechlieff, le compositeur. Il a participé comme récitant à une belle pièce de Boukourechlieff qui s'intitule Traîne, d'après le tombeau pour Anatole de Mallarmé. Et puis, il a suivi un séminaire organisé par Boulez, mais le lapsus est intéressant, par Boulez à l'IRCAM avec Foucault, Derrida, sur la musique contemporaine. Mmh. Et Barthes avait fait un petit article dans lequel il dit à quel point c'est intéressant. Mmh. Mais il ajoute par ailleurs, c'est que la musique, c'est de l'ordre de l'irréductible. Le goût est irréductible. Et il le dit, on aime ou on n'aime pas. On peut toujours argumenter à perte de vue pour expliquer que le sérialisme est une nécessité historique. Mais il y a un moment où on se heurte à une réaction de tout auditeur, j'aime pas.
D'accord, mais c'est à ce moment-là, on pourrait dire la même chose des mythologies. Ça veut dire on ne sort jamais finalement de son éducation. Donc il y a quelque chose d'anti-politique finalement dans ce constat-là.
Oui, parce que ça peut être dire j'aime pas ou c'est moche. Ça peut être le comble de la bêtise, du refus absolu d'évoluer, d'apprendre quoi que ce soit. C'est se rester enfermé dans ses pratiques et ses déterminismes. Mais ça peut être aussi le ferment d'une indépendance. C'est-à-dire, au fond, d'être obligé dans ces cas-là de penser une modernité qui serait différente. Vous voyez ce que je veux dire, hein.
Donc une espèce de troisième voie.
Une troisième voie, comme le sens obtus, si vous voulez. Ce serait au fond refuser cette dichotomie qui opposerait dans les années 50 en France tonal Poulenc à tonal Boulez, et dire que on peut aimer les deux, on peut détester les deux, on peut aimer tantôt l'un tantôt l'autre, ou choisir une troisième voie qui serait une sorte, et ça a été le cas d'ailleurs dans la France des années 50, une autre forme de tonalité, une tonalité élargie par exemple, ce que fait Dutilleux. Alors Barthes ne parle jamais de Dutilleux, on pourrait ainsi dire jamais, mais je pense que c'est le type de musique, enfin il faut jamais penser à la place des gens, mais c'est le type de musique qu'il aurait pu retenir.
Est-ce qu'on peut faire la même distinction entre plaisir et jouissance que Barthes fait à propos du texte, on en parlait hier, mais avec la musique, une musique tonale qui serait de l'ordre du plaisir, de l'ordre de la narration, peut-être qu'on peut imaginer que Schumann nous raconte une histoire,
tout à fait.
Et une musique atonale qui serait de l'ordre de la jouissance, parce qu'il n'y a pas de narration dans une pièce atonale.
Mais l'opposition que vous faites, Barthes l'a fait lui-même dans SZ. Il dit, SZ, qui est un ouvrage très très étonnant, un commentaire sur une nouvelle de Balzac, une sorte de castrat, et il dit au fond, le texte lisible serait du côté de la tonalité, et le texte de jouissance serait du côté de la tonalité. Il fait lui-même cette... Cela dit, je ne suis pas sûr que Barthes ait trouvé une véritable jouissance, autrement qu'intellectuelle, dans la musique atonale. Mais la jouissance peut être intellectuelle aussi. Et Barthes a été fasciné par le séminaire de Boulez, mais il dit lui-même, ce qui était fascinant, il le laisse entendre, c'est le séminaire lui-même, comme performance.
Alors, il faut parler des compositions de Barthes, parce que ça, on le sait pas beaucoup, mais entre 1934 et 1941, il a écrit une petite quinzaine de partitions, principalement pour le piano, la voix et des ensembles instrumentaux, flûte et violoncelle essentiellement. On va d'abord en écouter un extrait. Thank you. Donc ça, c'est une ouverture pour flûte, violon et piano de Barthes, interprétée par Justine Harrison à la flûte, Anne-Maria Barbara au violon et Sylvie Douche au piano. Donc c'est une interprétation très récente, et c'est la première, je crois.
Oui, oui.
Ça n'avait jamais été finalement réellement joué, ces pièces de Barthes, avant cet enregistrement.
Alors c'est un inédit, hein. C'est la première fois, c'est peut-être la seconde fois qu'on l'entend, puisque ces pièces ont été diffusées sur France Musique il y a quelques mois, mais on ne peut pas dire qu'elles encombrent les bacs de disquaires. Hein. Alors, ces partitions sont conservées essentiellement à la Bibliothèque Nationale ou à l'IMEC, et je suis allé les photos graphiées, et puis on les a transcrites, et elles ont été enregistrées par ma collègue et amie Sylvie Douche et quelques-uns de ses étudiants. C'est une drôle de partition, hein. On est tout à fait dans la musique française de l'entre-deux-guerres. Hein. Ça évoque un peu du Poulenc, par les ostinatos, comme les mouvements perpétuels. Alors on peut soit voir de l'amateurisme, au mauvais sens du terme, soit au bon sens du terme. La flûte joue dans le grave quand même. Hein. Alors est-ce que c'est une méconnaissance d'organologie de Barthes? En partie oui, parce qu'il joue des notes qui n'existent pas, il écrit des notes qui n'existent pas dans la flûte, hein, sur les partitions. Bon, mais en même temps, ça peut être une originalité, faire jouer la flûte dans le grave. Hein, c'est... Alors, vous ne seriez pas le premier, mais enfin, c'est aussi une manière de ruser avec ses propres limites. Hein, voilà.
Vous avez le sentiment qu'il s'agit là d'une œuvre inspirée ou alors on est vraiment là dans le jeu, l'amusement pour Barthes, hein.
Ah non, je crois qu'il y croyait, hein, je crois qu'il y a cru. Hein, il se voyait, non pas une carrière de compositeur, mais c'était quelque chose de fondamental pour lui. Hein, bon, et puis il a rapidement compris que il lui manquait de moyens. Enfin, il a fait de l'harmonie, hein, bon, bien sûr, hein, sinon il n'aurait pas pu écrire. Il écrivait beaucoup au piano aussi, hein, il tâtonnait. Bon, enfin, c'est quand même assez maîtrisé ce qu'on a entendu. On peut dire que ce soit la plus grande musique française de l'entre-deux-guerres, mais c'est pas indigne non plus comme écriture. Mais enfin, on sent bien que il valait mieux qu'il écrive Mythologie ou La Chambre claire.
On a parlé donc des goûts bourgeois de Roland Barthes en musique. Est-ce que le jazz, il est passé complètement à côté? Parce que bon, ça c'était quand même accessible à des enfants de bourgeois.
Bien sûr.
Sartre, par exemple,
bien sûr,
a beaucoup aimé le jazz.
Alors, il passe à côté du jazz, hein, sans doute parce que c'est une musique trop rythmique. Il y a toujours du rythme dans la musique, si on n'avait pas de musique, mais il n'aimait pas les musiques fortement pulsées.
Donc Prokofiev, par exemple.
Ah, il n'aimait pas Prokofiev, pas du tout. Hein, ni Bartok. Donc le jazz devait avoir cette dimension-là pour lui, hein, qui ne devait pas tellement le satisfaire.
Est-ce qu'il pouvait danser, Roland Barthes? Parce que le corps est évidemment très important dans sa pratique musicale, il l'explique. Est-ce qu'il dansait aussi?
Alors, biographiquement, dans sa vie, je ne sais pas du tout s'il était un danseur. Je pense que non. Hein, il faudrait demander à mes collègues et amis. Mais il n'y a jamais rien sur la danse, ou très peu de choses sur la danse chez lui, et jamais quasiment rien sur lui comme danseur. Hein.
Mais Nodelman explique, dans François Nodelman explique,
oui,
dans votre colloque, qu'il y a une dimension de sensibilité au rythme, une dimension presque érotique dans le rapport de Barthes à la musique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le corps dans la pratique musicale de Roland Barthes?
Alors, le corps est partout, sauf peut-être sur une piste de danse. Il y a un article au Palace ce soir où Barthes parle, bien sûr, de ce lieu de festivité nocturne. Hein,
il fréquentait le Palace.
Bien sûr, il le fréquentait, mais il n'était pas sur la piste. Il était assis et il regardait les danseurs, si vous voulez. Hein, voilà, il est spectateur. Alors maintenant, le corps, ben, il est partout. Le corps, il est dans, c'est le corps de celui qui joue, d'où l'importance de la main. Et Barthes parle beaucoup de la sensualité, du coussinet des doigts, hein, ça c'est capital, il est dans le corps de celui qui compose, on entend le corps de Schumann, hein, dans les pièces de Schumann, et il est dans le corps, et le corps de celui qui écoute, hein, le spectateur, qui ressent physiquement dans son propre corps, hein, serait-ce que par les ondes du son, la musique qu'il entend.
Et jouer aussi, c'est un acte corporel, et ça,
c'est profondément un acte corporel, bien sûr.
On va creuser encore avec vous le rapport de Barthes à la musique, le Coste, mais pour l'instant, c'est l'heure de retrouver la chronique de Bruno Blankmann.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Thank you. Bruno Blankmann, professeur de littérature française à l'Université Paris 3, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui de la petite musique de Roland Barthes, mais de quelle petite musique s'agit-il ?
Alors, il s'agit surtout peut-être de son timbre d'auteur, aussi des échos, des résonances de son œuvre et tout ce qui, peut-être dans une perspective plus métaphorique, renvoie à sa partition propre, si on le resitue dans une histoire qui est celle de la critique et donc qui pose la question de sa place dans le paysage, hein, critique ou écrivain, critique et écrivain. J'aurais plutôt la tentation d'une réponse radicale, à savoir un écrivain à part entière. Et c'est peut-être là, finalement, ce qui fait, entre guillemets, le génie de Barthes, c'est qu'on a connu bien des écrivains qui étaient des critiques. Hein, Diderot, Baudelaire, Proust, Mauriac, Gracq, Yourcenar, non des moindres. Mais tous ont fondé leur activité critique sur, en quelque sorte, une position d'auteur et une œuvre littéraire par rapport auquel ils se situaient face à la musique, mais et face à l'activité critique en règle générale, là où Barthes réalise une œuvre d'écrivain depuis sa seule activité critique. Et on sait que cette idée d'un passage à l'acte romanesque l'a taraudé.
Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de le faire.
Voilà, il est mort relativement jeune.
À 65 ans,
voilà.
En 1980.
Exactement. Alors que ce projet, finalement, prenait de plus en plus corps. Et il me semble que, finalement, Barthes s'est inventé en, non pas simplement renouvelant la critique, mais en faisant un foyer littéraire, c'est-à-dire romanesque, poétique, dramaturgique, à part entière.
Et ça passe par quoi ? L'écriture, tout simplement ?
Ça passe par l'écriture, ça passe par la vision, ça passe aussi par... Il y a une très belle formule de Jean-Pierre Richard, que je suis heureux de citer, qui aurait pu être aussi une formule de Starobinsky. Je suis heureux de les citer tous les deux parce qu'ils sont morts récemment, en mars, et que finalement, à leur manière, moins prestigieuse et moins reconnue aussi peut-être que celle de Barthes, ils ont bougé les lignes entre l'activité critique et le fait de faire une œuvre littéraire. Eh bien, une écriture au service des écritures, c'est une formule, on va dire, faussement modeste, qui place au centre de la définition peut-être de la littérature l'activité critique elle-même.
Alors à quoi tient l'exception de Barthes ? Qu'est-ce qui le rend spécifiquement différent des autres ?
Alors, bon, plusieurs éléments, je dirais, pour aller au plus vite, que c'est à la fois une épiphanie de la culture classique et une libre jouissance de la culture moderne. C'est ce télescopage entre les deux qui, me semble-t-il, est au cœur de son art. Épiphanie de la culture classique, bon, il suffit de lire ce qu'il peut écrire et comment il peut écrire, resitué dans le contexte historique qui est le sien, sur La Bruyère, sur Chateaubriand, sur Racine, c'est Frey la chronique quand même, entre autres avec la vieille Sorbonne, son Racine.
Polémique.
Voilà. Il y a là une sorte de montée en grâce, de légèreté profonde, qui est à la fois, qui impose sa voix sur un mode iconoclaste, dans l'inventivité verbale et dans le ton, mais aussi avec une empreinte totalement iconophile dans sa volonté de transmettre un patrimoine en l'actualisant. en insistant sur tout ce qu'il peut avoir, ce patrimoine de vivant, de vibrant, par la manière dont il en parle, et en l'hybridant avec des méthodes et des modes d'approche qui sont spécifiquement modernes. Donc il y a cela, et puis il y a cette libre jouissance de la culture ou d'une culture moderne, sa manière de se situer par rapport à la photographie, à la psychanalyse, à la sémiotique, de détourner tout cela et en même temps d'accorder à ces disciplines une reconnaissance qui leur fait dépasser les seuls effets de mode, qui explique, me semble-t-il, la place à la fois d'intellectuel et d'écrivain qui est devenue la sienne aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a toujours du mal à classer, et c'est très bien. Roland Barthes, un commentaire peut-être, Claude Coste, sur ce qui vient d'être dit par Bruno Blankmann.
Un commentaire pour partager ses propos. Ce qui me fascine dans cette écriture critique, est une véritable écriture, c'est qu'on peut lire Barthes à la fois en focalisant sur ce dont il parle ou sur lui-même. Par exemple, on peut lire le sur Racine, c'est la moindre des choses quand même, comme un livre sur Racine, et évaluer éventuellement la pertinence de ce qui est dit. Mais on peut aussi le lire comme un livre sur Barthes, et sans Racine à la limite, en oubliant Racine, on peut imaginer, alors nous on a du mal, parce qu'on a été formé à l'école, au lycée, mais imaginons quelqu'un qui vienne d'une autre culture, même japonaise ou chinoise, qui ne connaissent pas bien Racine, il peut lire le sur Racine plus facilement que nous en oubliant Racine, et du coup, et ça tient.
Merci beaucoup, merci Bruno Blankmann d'être venu aujourd'hui nous parler donc de cette petite musique si particulière de Roland Barthes. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 3, spécialiste de littérature contemporaine. Vous écoutez La Compagnie des Auteurs et vous êtes bien sur France Culture au dernier moment de notre série consacrée donc à Roland Barthes. Nous parlons de son rapport à la musique avec l'universitaire Claude Coste, la musique sur laquelle l'avait interrogé Claude Maupomet, productrice à France Culture.
J'ai très peu écrit sur la musique. Bon, tout le monde sait que c'est horriblement difficile d'écrire sur la musique, beaucoup plus que d'écrire sur la peinture. Il y a très peu d'écrivains qui ont bien écrit sur la musique. Commençons pas la liste, elle serait même courte. Et donc, il est très difficile d'écrire sur la musique et je ne m'y risque pas facilement. Oui, c'est ça, Debussy. Et Proust, en tout cas. On peut dire que Proust a écrit de très belles choses, notamment sur Wagner, justement. Donc, j'écris peu sur la musique parce que c'est très, très difficile. Mais en même temps, comme je sens la musique comme quelque chose de très important, pas seulement dans ma vie, mais comme expérience du langage, du discours, du texte, comme on dit maintenant, alors je la laisse venir indirectement dans les démonstrations, dans les comparaisons, dans les exemples, dans les leçons, si vous voulez.
Alors, il a peu écrit sur la musique, Roland Barthes, mais enfin, il a écrit quand même. On peut citer Musica Practica en 1970, Le grain de la voix la même année, en 72. Il y a aussi Aimé Schumann, Rasch, 1975, Le chant romantique, 1977, La musique, la voix, la langue, en 78. Et Piano Souvenir, en 80, c'est pas si peu que ça, au fond. Qu'est-ce qu'il dit sur la musique quand il écrit ?
Alors, effectivement, c'est pas si négligeable que ça. Une dizaine d'articles. Et il faut ajouter un texte inédit de Barthes qui est son diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire l'équivalent de la maîtrise à l'époque, qu'il a soutenu en 41 en pleine guerre avec Paul Mazon, le grand helléniste, et qui portait sur la tragédie grecque et sur précisément le rôle de la musique dans la tragédie grecque comme moyen d'agir sur le monde. Donc, c'est un texte important qui est en cours d'édition et qui est très éclairant sur le jeune Barthes et donc sur Barthes tout court. Alors, que dit-il de la musique ? Au fond, la musique, C'est ce qui est fascinant en elle et ce qui en rend la difficulté, c'est que c'est pas un art sémantique. Bon, c'est pas descriptif ou à peine. Un tableau, même si ce ne s'est pas fait de mots, c'est figuratif la plupart du temps. Donc on a toujours quelque chose à dire, au moins sur ce que représente le tableau. À défaut de Léonard de Vinci, on peut dire quelque chose sur la femme monalisée, si tant est qu'elle qu'elle existait. Pour la musique, la musique n'a pas de sens au sens le plus immédiat du terme. C'est pas un art verbal. Donc c'est très difficile d'en parler parce que on est immédiatement dans l'affect, on est immédiatement dans l'impression, on est dans l'adjectif si vous voulez, hein. Donc c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est beau, voilà, les points d'exclamation. C'est un peu court quand même, hein, comme discours. Ou alors c'est la porte ouverte à une interprétation un peu à la Romain Rolland, si vous voulez, qui faisait de la philosophie facile. Enfin, c'est bien Romain Rolland en même temps sur la musique. Donc ça c'est la difficulté, mais en même temps l'avantage c'est que c'est la sémantique et donc c'est une fascination très grande pour Barthes qui précisément essaie de penser la littérature en suspendant ou en pluralisant le sens, en complexifiant le sens. Voilà. Donc la musique donne un modèle, un idéal à la littérature. Au fond, la littérature, elle est, parce qu'elle est faite avec des mots, elle ne peut pas échapper au sens. Comment est-ce qu'on fait pour échapper au sens ou ruser avec le sens dans un art qui est profondément chevillé au sens? Eh bien, la musique peut servir de modèle.
Alors, il y a un écrit qui n'est pas à proprement parler sur la musique, mais qui se base sur l'histoire du castrat dans la nouvelle de Balzac, c'est SZ. C'est pas un hasard s'il a choisi cette nouvelle de Balzac qui parle d'un castrat.
Oui, alors qui se définit le castrat par le manque, hein, et toute la nouvelle de Balzac et tout le commentaire qu'en donne Barthes, c'est quelque chose autour du vide, hein, du vide. Alors il faut pas sous-estimer la violence, hein, de la nouvelle de Balzac, hein. La castration c'est quand même un acte violent et la mort y est constamment présente. Il y a donc cette espèce de vide, mais qui n'est pas toujours positif, hein. Le vide, c'est à la fois le néant, c'est à la fois la disparition, et c'est aussi un idéal quasiment zen, hein, voilà. Et donc, il faut faire quelque chose avec ce vide, et c'est tout le travail de Barthes, hein, soit en pluralisant le sens, hein, il n'y a pas un sens, mais une pluralité de sens, ou alors, inversement, en essayant de suspendre le sens, en notant les choses et en essayant de retarder, non pas l'arrivée du loup, hein, ou du méchant, mais en retardant le sens comme ce qui viendrait apporter une sorte d'idéologie. Et, voilà, retarder ça ou pluraliser le sens. Et la musique donne un magnifique idéal pour ça. Mais c'est pour ça qu'elle fascine Barthes.
Le castrat, c'est aussi la voix du castrat. Et c'est aussi la voix qui ne vieillit jamais.
C'est une voix qui ne vieillit jamais et c'est une voix insituable. Est-ce que c'est une voix d'homme ou une voix de femme? Les voix de castrat n'étaient pas des voix de femme, c'était des voix d'homme. Ils avaient toute la puissance d'un homme. On ne sait pas très bien comment ça résonnait, en fait, hein. Mais c'était pas des voix de haute contre, c'était pas des voix de femme, c'était quelque chose d'inclassable. Voilà. Donc c'est aussi le rôle de la littérature qui s'inspire de la musique, faire quelque chose qui ne soit pas facilement classable.
Il n'y a aucune voix humaine au monde qui ne soit objet de désir ou objet de répulsion. Il n'y a pas de voix neutre. Et si parfois ce neutre, ce blanc de la voix advient, c'est pour nous une grande terreur, comme si nous découvrions avec effroi un monde figé où le désir serait mort. Tout rapport à une voix est forcément amoureux, et c'est pour cela que c'est dans la voix qu'éclate la différence de la musique, sa contrainte d'évaluation, d'affirmation. J'ai moi-même un rapport amoureux à la voix de Panzera. Non pas sa voix brute, sa voix physique, mais sa voix en tant qu'elle passe sur la langue, sur notre langue française, comme un désir.
Tout ce que contient la parole humaine, de grâce et d'amour. La note d'or que fait entendre le cor dans le lointain des bois. Marie à la fierté tendre des nobles dames d'autrefois. Avec cela le charme insigne d'un frais sourire triomphant.
J'ai moi-même un rapport amoureux à la voix de Panzera.
Dans des candeurs de cire,
rapport amoureux à la voix de Panzera, nous dit Roland Barthes. Pourtant, ce n'est pas une voix de Castra, loin de là, Claude Coste. Pourquoi cette voix de Panzera en particulier, selon vous ?
Alors, parce que, peut-être pour des questions biographiques, d'abord, Panzera était le professeur de Barthes, hein, dans les années 30. C'était un grand chanteur, Panzera. Hein, c'est le créateur de l'horizon chimérique de Gabriel Fauré. Je veux dire, c'était pas un chanteur amateur que l'on de salon. Non, c'était vraiment un vrai professionnel de la musique. Donc, il a consacré du temps à donner des leçons de chant à Barthes. Il avait une très belle voix lui-même. Hein, je ne sais pas comment Barthes chantait, mais enfin, on connaît sa voix parlée. Et Barthes a fréquenté Panzera assez tardivement, hein, au-delà de la guerre. Ça, c'est pour la question anecdotique. Ce qui me frappe en écoutant Panzera, c'est la qualité de sa diction. Alors bon, comme c'est un texte de Verlaine, on le connaît, donc peut-être qu'on le reconnaît parce qu'on le connaît. Mais on comprend tout ce que chante Panzera, hein, dans le texte de la mélodie de Fauré que vous avez passé. Et je crois que c'est une des grandes raisons qui peuvent expliquer l'amour de Barthes pour Panzera. C'est-à-dire, il le dit bien, le grain de la voix, c'est pas le timbre. C'est la rencontre du timbre et de la langue, en quelque sorte. Donc c'est la musicalisation de la langue française. C'est ça qui est fascinant, sans affect, sans affaîtrie. Mm-hmm. Hein, c'est très pur comme interprétation. Hein. Alors Barthes a été très méchant avec Gérard Souzet. Bon, c'est injuste. Hein, Gérard Souzet a été un grand chanteur, mais il avait peut-être plus d'affaîtrie chez Souzet et ça a agacé beaucoup Barthes, comme il n'aimait pas Fischer-Dieskau. Il lui préférait Hans Sauter ou d'autres chanteurs beaucoup plus sobres. Donc cette rencontre sans affaîtrie entre la voix et la langue française, c'est ce qu'il retrouvait magnifiquement réalisé par Panzera. Mmh. Et c'est ce qu'il aimait en lui, je crois.
Alors, on a entendu tout au long de cette émission des archives avec Claude Maupomet, qui a interrogé plusieurs fois Roland Barthes. Elle était productrice à France Musique. Vous en parlez un petit peu dans l'ouvrage Barthes et la musique. Enfin, c'est pas vous en particulier, mais c'est un article de Guido Mattia Galerani qui a traité de cette question. Il a été invité donc à deux émissions en particulier, le concert égoïste et comment l'entendez-vous? Et grâce à la complicité finalement de Claude Maupomet, Barthes a inventé une nouvelle façon de parler de la musique en public. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'expérience de Barthes à la radio?
Vous avez cité ces deux émissions, hein, d'une grande productrice, hein, qui donnait à cette émission un ton, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, presque salonard, mais au sens que, enfin, salonard est péjoratif en français. Il y avait l'élégance du salon, si vous voulez, et qui de façon un peu presque mythique devait plaire à Barthes. En même temps, et je crois que c'est toute la difficulté d'une émission de radio, c'est que on est peut-être entre soi, mais on est écouté. Et on est écouté par des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais, hein, qui entendent votre voix. Et donc, ce qui intéressait Barthes, c'était à la fois le contact avec la productrice, qui était une amie aussi. Hein, Barthes connaissait bien Claude Maupomet, et ce geste vocal en direction d'un public qu'on ne connaît pas. Et donc, pour lui, c'est un moyen de repenser à la relation de l'écrivain à son public. Sauf que à la radio, il y a davantage de contraintes, et c'est ce qu'explique très très bien Galerani dans son article, c'est que Barthes tenait aussi à faire plaisir à son public, et donc aussi la volonté d'articuler son propre goût, son propre plaisir. Alors on entend du Debussy, on entend du Fauré, on entend du Schumann, bien sûr, mais aussi tenir compte du public, parce qu'on s'adresse à un public qu'il faut satisfaire. C'est toujours cette relation du plaisir personnel et du collectif. Par exemple, Barthes va passer un air chanté par la Callas.
Alors
qu'il n'aimait pas la Callas. Mais c'est pour faire plaisir à son public, parce que quand on s'adresse au public, eh bien, il faut tenir compte de ce public.
C'est la fameuse gentillesse de Barthes.
Oui, mais c'est aussi un acte fondamental de sociabilité. Alors, moi, je suis enseignant. Vous savez, quand vous vous adressez à des étudiants, si vous ne pensez pas que vous vous adressez à des étudiants, vous allez à la catastrophe. Hein. Il faut penser son public. Et à la radio, comme dans l'écriture, on doit penser son public. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas qui vous écoute. Hein. Alors, le public de France Culture, on l'imagine, on se le représente.
Parfois, on se trompe sur le public.
Et parfois,
de France
on se
Culture.
Trompe complètement, j'imagine. Hein. Et peut-être que le public de France Culture détestait, ou de France Musique en l'occurrence, détestait Callas. Je ne pense pas. Elle était une femme très, très aimée. Donc, Barthes a voulu faire plaisir. Et donc, c'est toujours cette pensée chez lui de l'articulation entre le sujet et la collectivité. Et la radio était un moyen de penser cela aussi.
Même s'il n'aimait pas forcément la radio, il n'aimait pas forcément France Musique. musique. Alors, il dit qu'il l'écoutait en travaillant.
Oui.
Mais pour lui, c'était presque trop découpé. Il n'y avait pas suffisamment de temps laissé aux œuvres.
Voilà, mais c'était la contrainte. C'est la contrainte. Hein, mais être au monde, c'est aussi accepter les contraintes. Il faut trouver sa voie au sein même des contraintes. Puis Barthes était un homme qui n'aimait pas forcément la publicité. Hein. C'est pas un homme public au sens où c'était pas un orateur, si vous voulez. Hein. Alors, à la radio, on n'est pas orateur. Mais enfin, on s'adresse quand même au-delà du cercle étroit de son interlocuteur, constitué par l'interlocuteur. Et ça le mettait un peu mal à l'aise aussi, cela.
Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves. J'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève, qu'on appelle le haïku japonais, par exemple. Ou même en musique, les pièces brèves de Webern, c'est une chose qui me fascine énormément. Ou les intermezzi de Schumann. Enfin, je suis très attiré par la forme brève. Alors pourquoi ? Je pense que ça serait pas très intéressant de chercher des raisons, comme ça, des raisons subjectives ou des raisons de valeur. Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors, évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque.
Et quand on aime les fragments, on n'aime pas ni le roman fleuve, ni l'opéra. Il n'aimait pas l'opéra, Barthes.
Non. Il n'aimait pas l'opéra, alors peut-être pour des questions de continuité, parce que ça peut être long, mais aussi parce que c'est pour des questions de parasitage de la musique, en quelque sorte. Hein. L'opéra, c'est du théâtre aussi, et peut-être d'abord. Et la musique, pour lui, se suffisait à elle-même. Il n'avait pas besoin d'une mise en scène et de toute cette théâtralité qui n'est pas loin de l'hystérie, d'une certaine manière. Hein. Donc ce goût aussi des formes brèves, qui est difficile à concilier avec l'opéra, c'est aussi peut-être un moyen de conjurer l'hystérie. Enfin, dans ce cas-là, de jouissance de soi un peu ostentatoire, si vous voulez. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, puisqu'il nous reste assez peu de temps, sur Barthes et la peinture? Est-ce que ce goût pour la peinture est similaire, est comparable avec son goût pour la musique?
Alors, il y a des points communs et des différences. On dirait un corrigé de devoir, là. Hein. Les points communs, bon, c'est une forme d'amateurisme.
Hein. Encore plus que pour la musique. Pour le coup.
Oui, sauf que il a quand même fait œuvre davantage picturalement que musicalement. Bon, son œuvre musicale, c'est dans son adolescence, quand il avait 20 ans. La peinture, il l'a pratiquée régulièrement.
Hein. Il y a 385 dessins qui sont conservés à la Bibliothèque
nationale. Beaucoup,
c'est
beaucoup. Puis il les offrait, donc il en faisait état. Donc il l'assumait peut-être davantage. Il se sentait peut-être plus à l'aise. La jouissance aussi, il le dit, la peinture de Barthes, enfin, les créations plastique de Barthes, c'est pas toujours de la peinture, c'est très coloré. Hein, et il y a une jouissance de la couleur qui est très importante chez lui. Et la couleur, elle est pas loin du timbre musical, elle est pas loin de la mélodie de timbre, hein, telle qu'on peut la trouver chez certains compositeurs contemporains, Webern en particulier. Et il y a ce point commun. Essentiellement l'amateurisme et la jouissance. Hein, c'est les deux grands points communs. La différence est difficile à dire. Il y a quelque chose de plus solitaire dans la peinture, paradoxalement. Hein, plus solitaire. Il n'était pas obligé de montrer ses dessins, et il les faisait d'abord pour lui.
Mais ils ont été montrés, ces dessins, en 2002, au Centre Pompidou, qui avait exposé ses aquarelles, ses encres, ses gouaches.
Tout à fait, dans cette magnifique exposition de Beaubourg.
Est-ce qu'il a davantage écrit sur la peinture, puisqu'il le dit, hein, c'est plus facile d'écrire sur la peinture que sur la musique?
Un peu plus, et de façon plus régulière, puisqu'il a commencé à écrire sur la peinture dès les mythologies, en quelque sorte, hein, dès les essais critiques. Hein. Il y a un très beau texte sur la peinture hollandaise. Il a régulièrement écrit sur la peinture. La musique, il se réservait davantage. Hein. Mais Barthes ne parle pas forcément de ce qu'il aime. Il a relativement tardivement et peu écrit sur Proust, alors que c'était la grande passion de sa vie. Hein. Et justement, il avait peut-être plus de facilité à investir un domaine qui lui était éloigné pour se le réapproprier. Quand on est trop proche, quand la proximité s'impose, on n'arrive pas à créer ce recul, hein, qui va permettre précisément de se dire.
Là encore, il y a trois textes majeurs sur la peinture qu'on peut citer. Réquichot et son corps,
oui.
1973. Citombly, qu'il aimait beaucoup.
Oui.
Donc un des textes sur Citombly s'appelle « Sagesse de l'art ». Et puis, il y en a un autre dont le nom m'échappe. Mais c'est ça les trois grands textes pour vous, les trois les plus importants.
Sur Twombly, c'est « Nod multa ». Sed Multum, hein, c'est le sous-titre de l'article, écrit en 79, et c'est précisément une citation de Webern. Mm-hmm. Donc on pourrait traduire comme en pas beaucoup, mais intensément, quelque chose comme ça. Hein, et ça renvoie tout à fait à la forme brève. Enfin, c'est, on n'est pas dans le développement, mais on compense par une espèce d'investissement affectif et esthétique très très fort, ce qui précisément ne se donne pas la durée comme moyen de développement.
Il y a de la modernité chez Sitombly, et là, pour le coup, Barthes l'apprécie beaucoup, cette modernité-là.
Tout à fait, tout à fait. Il était très très heureux de cette peinture à la fois aérée et hédoniste.
Merci beaucoup, Claude Coste. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature française à l'université de Cergy-Pontoise, co-directeur avec la musicologue Sylvie Douche de l'ouvrage Barthes et la musique aux presses universitaires de Rennes. En 2018, on vous doit également, et entre autres, le livre Roland Barthes ou l'art du détour chez Hermann en 2016. La compagnie des auteurs ne pourrait avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Ludovic Auger. Demain, c'est Manu Farine que vous retrouverez pour la compagnie des poètes. Et nous, on se dit à lundi pour la première émission d'une série consacrée à Victor Segalen. Et puis au passage, tout autre chose, lundi soir prochain à l'Odéon Théâtre à Paris, ne manquez pas l'hommage à Amos Oz en présence de sa fille Fania, de Jean Materne et de Costa Gavras. C'est une soirée en partenariat avec France Culture. Tous les renseignements sur le site de l'Odéon. Mais pour l'heure, c'est la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Il y a des fois, on se casse la tête à démonter des poèmes pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est d'un compliqué, puis c'est presque impossible à remonter. Mais bon, c'est un plaisir, c'est pas de la bluette, quoi. Puis j'aime ça, que c'est le côté « n'expliquez pas, j'ai pas compris ». Puis d'autres fois, les choses, une simplicité. François de Cornière, ça tient à quoi? En feuilletant mon carnet, j'ai pensé « ce furent les miens, souvent les nôtres, tous ces moments, bout de phrase, simple mot, juste noté. J'ai relu ce matin sa petite main froissée. Et je revois la jeune serveuse qui, éclairée de sa présence, la taverne bleue où nous dînions. Tiens, Marie-Claire Bancard, bah, elle est presque venue tous les jours avec son poème tiré de Terre énergumène qui vient de sortir chez Gallimard. Marie-Claire Bancard. Qu'avez-vous fait, sinon, marcher sur Terre énergumène, chercher un lieu, mais le voyage était sans fin, chercher quelqu'un, mais c'était à qui chercherait sans prendre une autre main. Même l'extrémité des branches aurait été une patrie. Perdu, vous vous en alliez avec la galaxie, mais vous serrez un mot qui vous est resté, entendu par hasard au seuil d'une porte, comme reçoit une caresse un cheval solitaire. Un mot devenu soleil et lieu. Poème de François de Cornière dans « Ça tient à quoi ?» Bleu. Checkington. L'homme avait décidé de sortir les meubles de jardin. Il était allé dans la cabane, il avait pris la table blanche et 4 des 6 chaises achetées au début du printemps pour remplacer les anciennes. Il avait vérifié l'état du parasol et des transats. L'homme avait décidé de donner un coup de peinture au plateau de la table. Il restait une bombe de bleu. Dans le garage, il s'en souvenait. Il avait secoué la bombe aérosol, il avait appuyé sur la valve avec le pouce à 30 centimètres de la table qu'il avait posée debout contre le mur. Un peu inquiet, l'homme avait regardé la petite pluie recouvrir la surface. À la fin, il avait reculé de 2 pas. Le résultat était correct. Pendant tout ce temps, l'homme avait éprouvé une drôle de sensation. Il y avait la terrasse qui avait été refaite à la fin de l'automne. Il y avait des petits pavés gris à la place du vieux ciment craquelé. Il y avait le bleu et le blanc de la table et des chaises. Et il y avait lui, au milieu de tout ça, qui purgeait son cœur retourné en appuyant sur la valve d'une bombe de peinture bleue Checkington. Pour faire encore sur soi,
quelques retouches avant l'avenir, si le temps le permettait.
Jacques Bonafé, merci. Toutes les références des textes lus sont à retrouver sur votre page au sein du site de France Culture.